Et nous sommes arrivés à la fin de la page Nun Zayin. Fin de la page Nun Zayin. Ahod ve'ada. Ok ? Alors je commence. Pour le meilleur et pour le pire. Ahod ve'adar ve'aper ha'meyuchad sheyesh b'mitzvot atluyot ba'aretz כשהן מתקיימות עכשיו בארץ ישראל על ידינו, על ידי אותו החיל החלוץ החולץ ובונה את הארץ, את ארץ הערות, סליחה, ומכין אחרית ותקווה יותר חזקה ויותר בהירה לדור יבוא, מתגלה הוא לנו מתוך עוז חפצנו הפנימי, המפעם בקרב נשמתנו, להעמיד את צביון אומתנו על ארץ אבותינו במלוא תהורה, בכל סרטוטה וקוויה המשלימים את תכונתה, המגלים ומבליטים שזאת היא אומתנו אנו, אומתנו אנו בערכה הרם המקורי, בגוויתה, בנפשה, ברוחה ובנשמתה. Comme d'habitude, une phrase où le Rav a oublié, Todaraba, la ponctuation. Phrase de cinq lignes, comme à son accoutumé. Qui nous dit quoi ? Il nous dit « Les mitzvot atluyot ba'aret » que nous pouvons refaire un tout petit peu, point de départ, par cette force de reconstruction première, cette force, ce chalout. Tous ces juifs qui sont revenus en Israël, qui ont rendu l'agriculture possible en Israël, ben nous permettent de faire mitzvot atluyot ba'aretz. Et là, tout d'un coup, eh bien, ça redonne non seulement à notre vie, à notre lien avec la terre d'Israël, à notre lien avec Dieu, eh bien, une dimension beaucoup plus vraie. Beaucoup plus vraie. Alors, c'est un début à l'époque du Rav Kook. Ça va grandir de plus en plus. Mais les mitzvot atluyot ba'aretz, peut-être plus que n'importe lesquels, sont le point de redémarrage d'une vraie relation avec la Torah. Je m'explique, et pour que ce soit bien clair. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter des fruits,
ouais,
mais dans un endroit où tu ne sais pas vraiment d'où ça vient ?
Tu
ne sais pas vraiment d'où ça vient ? Alors, il y a un problème d'acheter des fruits en Israël dans un endroit où tu ne sais pas vraiment d'où ça vient, parce qu'il y a le problème de... C'est quoi le problème ?
De trauma.
Alors, trauma, ce n'est pas un problème. Pourquoi ? De quoi ? Alors, ça peut être chez vide, mais enfin ça, ce n'est pas un problème si tu viens la quatrième année.
Si ce n'est pas des fruits.
C'est-à-dire que là, tu viens l'année prochaine, il n'y a aucune chance qu'il y ait un problème de chevite. Ok ? Trauma et maaser, ce n'est pas un problème en soi, parce que si tu as un safek, bah, t'as ma friche.
Tu fais trouma
de maasrot, toi, à la maison. Si t'as un safek, tu fais pas de bracha. Oui, mais s'il y a un safek, parce que peut-être ils ont fait, peut-être ils ont pas fait, alors tu fais pas de bracha.
Si c'est sûr qu'ils ont pas fait,
tu fais un bracha.
Maintenant,
la friche trouma. Maintenant, le seul véritable problème qu'il peut y avoir, c'est est-ce que l'arbre, il est hors là. Ok, ça c'est le seul vrai problème qu'il peut y avoir, mais ça aussi c'est un problème qui est facilement gérable, parce que si tu demandes à l'agriculteur quel âge il a son arbre, eh ben tu seras vite fixé.
L'agriculteur est vendeur.
Non, mais c'est si l'arbre il
a. Ça dépend. Alors encore une fois, ça dépend où tu vas acheter. Mais disons, viens, on met ça de côté. T'as été chez ton copain, ok, et il a un arbre, il a un pommier magnifique dans son jardin. Et c'est toi qui l'as aidé à planter il y a 10 ans. Donc tu sais qu'il n'y a pas de problème dehors là. Et donc tu demandes, il a une très très belle récolte, il te dit tu peux prendre ce que tu veux, et tu prends un bon saladier de pommes. Parfait, tu rentres à la maison, c'est sûr, il faut que tu fasses Trumot Maasrot. Et comment tu fais Trumot Maasrot ? Tu as pris 10 pommes.
Et tu finis d'en prendre un
morceau ? Un tout petit morceau, c'est-à-dire que tu ne sais même plus vraiment Maaser. Tu prends un tout petit morceau, tu regardes le morceau qui en général est le plus pourri, tu le découpes délicatement, tu le mets dans un sachet et avec une cavana fantastique, tu le mets à la poubelle.
C'est bien ce que l'a fait ma fille.
Je fais la bracha. Ça dépend. Si tu as si besoin de faire la bracha, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas été fait, alors tu fais la bracha.
C'est à chaque échelon,
mais c'est pas. Bah oui, la friche, tout moi, ma mère.
C'est bien ce que l'a fait ma fille. On accueille des cerises. On vient de cerisier chez moi. Oui. On accueille à peu près 4-5 kilos de cerises. Elle a pris 10 cerises et elle a fait la bracha.
Oui, une cerise, c'est suffisant. Oui, une cerise, c'est suffisant. Même une moitié de cerise, c'est suffisant.
C'est dommage
pour les autres. Voilà, ça. Mais vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose qui est quand même risible. Tout le monde saute. C'est 20% de la récolte, normalement. Eh ben oui. Parce que tu as Etrouma, Emaaser, Etroumat Maaser, Emaaser Richon, Emaaser Sheni. Les amis, oui, c'est pas une blague. Ah, il a fait. Donc, toi, quand tu fais. C'est pour ça que je te parle à toi.
Il y en a qui m'ont donné. Hein.
Ouais.
Ah, ouais.
Maintenant. Vous avez pensé les 20-80 ?
Non.
Quand tu achètes dans un projet, tu donnes 20% au départ et 80% à l'arrivée.
Non, les amis, je veux juste vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, quand on fait mitzvah de Trouma Asrot, c'est matzrik. Alors tu fais la bracha, tu mets toute ta kavana, mais c'est pas vrai. C'est pas. Ça sonne faux. Ah, parce qu'on fait parce qu'on va redevenir une société grande. Maintenant, toi et moi, pourquoi est-ce que ça nous paraît faux? Parce que pour nous, ça veut rien dire, l'agriculture. Non, c'est même pas ça. C'est que toi, ça s'est limité dans l'exemple que j'ai donné, tu as été chez ton copain qui a un pommier chez lui. Mitzvot Trumat Maasrot, ça fait partie de l'équilibre économique du pays dans une société agricole. Mais on n'est plus une société agricole. Et a priori, on ne va pas le.
La première chose qu'on a fait quand on a fait les plus satisfaits, on a fait l'agriculture.
Mais tout
on
à fait.
On a fait l'agronomie.
Tu as tout à fait raison.
Tu as
tout à fait raison. Le seul truc, c'est que quoi? C'est qu'à l'époque de la Torah, 98% de la population était agriculteur. Aujourd'hui, c'est 2%, 3% de la population qui est agriculteur. Ce qui veut dire que, oui, il y a une grande agriculture, mais la majorité de nous, on ne le vit pas au quotidien, cette agriculture. C'est-à-dire, maintenant, l'agriculteur, lui, pour lui, ça représente vraiment quelque chose, trouve-moi Thomas Asroth. C'est-à-dire, ce qui veut dire que, quand nous, on s'attache à quelque chose qui est du domaine du souvenir, eh bien, ça garde, mais c'est l'obémet. Le fait que maintenant on revienne en terre d'Israël, qu'on puisse refaire Trouma Thomas Asroth, alors en début en petit, mais après de plus en plus grand et de plus en plus vrai, ça redonne une véracité à toutes nos pratiques.
C'est comme la Torah Bichlal en plus là.
C'est comme la Torah Bichlal pendant 2000 ans d'exil. On a inventé des rituels de judaïsme. Alors que à l'époque du Beth Amikdash, c'était pas des rituels, c'était pour de vrai. Question, combien d'entre vous ont mis leur châle de prière ce matin? Bon, beaucoup. Maintenant, j'aimerais poser la question, comment est maintenant votre châle de prière? Est-il plié, bien joli? Absolument.
Enroulé.
Rangé dans sa pochette.
Bien fait.
Il n'y a rien donc de plus folklorique et, j'allais dire, pas folklorique, c'est pas le bon mot, mais de plus rituel que le châle de prière. Avalefo Achaïm. C'est un rituel, mon châle de prière. Je arrive à la synagogue, je mets mon châle de prière. Bon, et j'ai fini la synagogue, je range mon châle de prière.
C'est pour entrer dans le...
Mais à l'époque, il n'y avait pas de châle de prière. À l'époque, il y avait tes vêtements.
À l'époque, il y avait ce qu'il y avait.
Non, mitzvah tzitzit, c'est pas... J'arrive dans un bâtiment synagogial, je sors de ma pochette rituelle le châle avec les filaments, et je les mets dessus, moi, et je dis, bon, Hashem, l'itatev, tzitzit, et je fais genre... Je me mets un habit.
Pareil pour la roupa, pareil pour tout le reste. C'est des rituels alors.
Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. Qu'à l'époque du Beth Amikdash, ouais, les choses ne sont pas vécues de manière rituelle, mais elles sont simplement vécues. Les gens, ils ont aux quatre coins de leurs vêtements Des tchitchites.
Un
non, talit gadol.
C'est
leur vêtement. C'est comme ça que ça marche. Mitzvah tzitzit, ce n'est pas un truc rituel, c'est un truc que tu fais, tu te lèves le matin, tu mets tes vêtements. Akal fait migdechem. C'est pas shoot. Le Rav Yoel Ben Noun, il a fait faire sur tous ses costumes une fente et des coins. Et il a les tzitzit sur tous ses costumes. Il est habillé en costume tous les jours. Bon, très bien. Mais tzitzit, sur le costume. La matalit katan en dessous des habits,
j'ai jamais vu là.
Mais ça nous paraît rigolo, parce que c'est pas la mode. Mais en vrai, c'est sûr que c'est ça l'idée.
Et comment c'est fait alors que la coutume chez les Sfarades, c'est de les mettre à l'intérieur.
Ah, mais c'est exactement pareil. Voilà, c'est parce que ce n'est plus un vêtement. Qu'on s'est obligé à faire un vêtement parce qu'on voulait faire la mitzvah, que donc c'est pas obligatoire, donc comme c'est pas obligatoire et que tu le fais, et ben tu veux pas le montrer à tout le monde, donc tu les ranges. Mais là, si ça devient ton vêtement, ça devient ton vêtement.
Mais en exil, on pouvait pas vous mettre.
Tu as raison. Et bien sûr, ce qui veut dire que le Rav Kook nous explique, quand tu reviens en terre d'Israël, il a pris l'exemple de mitzvot atliot baharet, mais en fait, c'est pas que ça. Il faut réapprendre à redonner à toutes les mitzvot, toute la Torah, une dimension de, pas seulement rituel, mais d'authenticité, de vie, bien sûr. Ok ? Alors venez, on continue. « Hine, yeshno shnat tardema le'umit, mesher galut aruka vekasha me'ot. » Pendant 2000 ans d'exil.
Cinquième ligne.
Page Nunchet, cinquième ligne. Pendant 2000 ans d'exil, on était en mode coma, dodo. Kochotenu aleumim nisharu az beluim bekirbenu benima. Mibachutz akol naasa mekumat umezukan. Aval mibifnim tal chayim oler vezorem. Pendant 2000 ans d'exil, de l'aspect extérieur, on était un peuple endormi avec des traditions. Mekoumat, complètement pliée et vieille, genre passé, voilà, vestige d'un vieux passé. Avant, à l'intérieur, il y avait une vie qui bouillonnait. Keshem shehamitzvot ha-ma'asiyot bichlalan ubechol miluhem alchu imanu bagola veshamru lanu ba et luach chayenu veet chotam ruchenu על פי עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לאלה ימי התחלת תקופת הערה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו. כן, יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הם נקבעו. Donc nous dit le Rav Kook, les mitzvot pendant 2000 ans d'exil, ça nous a permis de garder quand même un semblant de relation avec notre identité profonde. Mais il nous dit, lorsque nous revenons sur la terre d'Israël, alors d'abord grâce aux mitzvot atlot baharetz, mais après il a dit, kol mitzvot ha-ma'asiyot bichlala, le but c'est de leur redonner leur grandeur, leur authenticité.
Voilà, leur authenticité.
Tout à fait. Bah, c'est bien, grandeur, c'est un beau mot.
Non, 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 mais ça veut dire que c'est comment...
Oui, tu as raison. C'est-à-dire que ça, parce que ça doit être vrai, ressenti. C'est-à-dire ? Et maintenant, c'est dur de se réhabituer à ça. Hein. C'est caché. D'accord, c'est caché.
Et même en Israël, les gens qui marchent là, c'est pas tout le monde qui a les six dehors, qui se battent avec, qui se battent. Même ici.
Les gens, ils savent pas. J'étais dans l'avion cette nuit et. Et j'avais oublié de commander un repas cachère.
Aïe.
Pas très grave, il était très tard, j'avais pas très faim. Et donc l'hôtesse, elle arrive, machin, vous voulez un repas, c'est sur Air France. Vous voulez un repas? Je dis non, merci, tout va bien. Et à côté de moi, il y a deux personnes qui sont assises, israéliens, gentils, pas religieux. Il dit, tu veux pas manger? Il y a des pâtes ou il y a du bœuf? Je dis non, ça va. Ça. Je dis, bah, c'est dommage, vas-y, mange, c'est bon. Je dis, non, c'est pas, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, machin, c'est pas cachère. Donc moi, je mange pas.
Ah,
Il me dit, ah ouais, mais genre tous les jours,
tu manges cachère. Ah, tu manges cachère tous les jours.
Il y a pas de... tous les jours tu manges cachère.
Ils t'ont demandé ça.
Bah oui.
J'hésiterais.
Bah oui. Mais toi, c'est tous les jours.
T'as pas vu habillé.
Mais si, bien sûr. Ils n'étaient pas choqués par le fait que je mange cachère. Le concept de la cacheroute n'était pas étranger à leurs oreilles. Mais ils m'ont dit, mais c'est tout le temps, il n'y a pas de... Là, t'as pas autre chose. Tu peux pas faire une dérogation. Je dis, bah non, c'est pas une dérogation.
Ça me rappelle, oui, de Funès.
Et il me dit, mais qu'est-ce qui est pas... Oui, c'est Rabbi Jacob. Il me dit, mais qu'est-ce qui est pas cachère là-dedans? Je dis, bah regarde, par exemple, toi, t'as choisi le bœuf et ton fils, il a choisi les pâtes. Alors, dans le bœuf, il y a un problème parce que le bœuf, il a été tué par étourdissement et par balle dans la tête. Et pour nous, pour qu'un bœuf il soit cachère, consommable, propre à la consommation, il faut qu'il ait été shrité. Et tu sais, la shrita, c'est très important parce que ça permet de ne pas faire souffrir l'animal. Bon, voilà. Et puis dans les pâtes, c'est qu'ils ont fait des pâtes avec du fromage. Et le problème, c'est que le fromage en France, il est vieilli dans de la présure animale. Et donc, c'est un problème parce qu'on ne peut pas mélanger le lait et la viande. Et puis en plus, cet animal-là n'a pas été non plus shrité comme il faut, donc on ne peut pas manger, c'est pas cachère. Je dis, ah ouais, mais d'accord. Et tu veux dire que toi, c'est tout le temps.
Je dis, bah oui. Il insiste.
Il insiste, bah, mais il ne comprenait pas.
Oui, il n'arrive pas à comprendre.
Il n'arrive pas à comprendre.
C'est un autre monde.
Il dit, mais tu sais, moi, des fois, je mange cachère aussi. Quand je suis en Israël, ça ne me dérange pas de manger cachère. C'est, pour lui, c'est même pas une question. Donc des fois, il va manger là, c'est cachère. Des fois, il ne mange pas là, c'est pas cachère.
Ouais,
c'est ça. Donc, Il y a une dimension d'authenticité qui est fondamentale. C'est-à-dire que, est-ce que je mange cachère parce que c'est cachère, et que donc moi je veux faire mes rituels de judaïsme, ou alors est-ce que c'est novea me'achaïm ? Parce que c'est ce qui sort de la vitalité même du juif.
Absolument.
Que je mange cachère parce que, ben c'est tzodek, c'est vrai, c'est authentique. Parce que j'ai compris ce que ça voulait dire. Faire la shrita, parce que j'ai compris ce que ça voulait dire, pas mélanger la viande, parce que. Et donc nous dit le Rav Kook, on est en train de s'éveiller à ça, tout simplement. Ok ? Vechol asher nosif leitbonen bemautan shel mitzvot atluyot ba'aretz kulan, venire kama rechokot hem meitanu, kama chayenu tzrichim liyot betnaim yoter beriim vechazakim ad sheyu ele hamitzvot mitkayimot bahem. כן יגדל בנו החשק לקיום באהבה ובעיקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיומו בתור זכר לדבר. זכר הקודש, זיכרון לחיים שלמים שיביאו לנו בבוא תשועה שלמה לעמנו על אדמתנו לתשועת עולמים. ואשר בקיומנו אותם עכשיו הננו מעשירים את נשמת הם אומתנו באותה אש הקודש אשר תהיה לשלהבת הקודש מלאת החיים לעת חיה. Pour lui, les mitzvot atoyot ba'aretz, c'est plus on apprend à les connaître et à les refaire bien, et plus ça réveille en nous une authenticité de la vie juive. Plus encore que les tefillin, plus encore que le Shabbat, plus encore que pourquoi ? Eh bien, parce que le tefillin et le Shabbat, on t'a dit de les faire aussi en chutz la'aretz. C'est-à-dire qu'on t'a dit de je vais encore une fois dire le mauvais mot, pas le mot folklore, mais le mot rituel. On t'a dit de ritualiser énormément de choses, également en choule. Mais mitzvot atoyot ba'aretz, tu ne pouvais pas du tout. Donc le fait d'aujourd'hui pouvoir les refaire et de leur redonner leur authenticité, c'est a fortiori plus grand pour nous permettre de nous réveiller. Ça nous redonne notre lien avec la terre d'Israël, avec la Torah, avec tout ce que tu veux. Et donc il te dit, plus tu vas apprendre à connaître les mitzvot d'Atriot Baharet, plus tu vas t'éveiller à une normalité du judaïsme.
Cette volonté d'apprendre, elle vient du ratson du bonheur.
Bah oui.
Ok. Alors maintenant, on s'aperçoit ce qu'on vit actuellement, que la moitié du pays qui est contre l'autre moitié, parce que il y en a une qui pense qu'elle veut imposer les choses. C'est très difficile.
C'est l'ignorance.
Avant d'arriver au stade d'authenticité, il se passera des générations.
Je ne sais pas si des générations, peut-être une, deux générations. Et puis aussi, n'oublie pas que c'est un travail qui vient pas que de celui qui pratique pas, mais c'est un travail qui doit venir aussi de celui qui pratique.
C'est difficile après 2 millions de visites.
Mais personne n'a dit le contraire. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça se fait pas en un coup.
Il faut beaucoup de ratson.
Et il faut aussi beaucoup de compréhension de la part de celui qui pratique. Qu'il comprenne qu'il ne doit pas pratiquer de manière rituelle, mais que ça doit être sa vie. Que ça doit transpirer le judaïsme de tout son être. Ok ? Oui ?
Il y a une question qui m'a été posée. Je ne sais pas où c'est écrit que quand on vit en Israël, on marche. C'est comme c'est équivalent à toutes les mitzvot. Ça veut dire celui qui est réuni, qui ne fait pas les mitzvot, on a dit qu'il ne mange pas 4 heures tous les jours, etc.
Faut marcher dans tout Israël, quoi.
Il fait les mitzvot aussi.
Bah, la mitzvah. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël et Shkula Keneged Kol HaTorah Kula. Il y a 4 mitzvot comme ça qui sont équivalentes à toutes les autres. Ça ne veut pas dire que tu fais les autres aussi, mais ça veut dire que l'importance de ces mitzvot-là sont tellement grandes parce qu'elles parlent de l'essence même de notre identité. Donc ce sont les mitzvot de Limud Torah, de Shabbat, de Tzitzit et d'habiter en Eretz Israël. Il y en a une cinquième, c'est une mitzvot Lota Asé. C'est interdit d'eux, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie remet en cause l'essence même de notre identité juive. Mais les 4 mitzvot qu'on a citées, effectivement, elles font cristalliser notre lien avec notre identité. La terre d'Israël, c'est parce que si tu n'es pas en terre d'Israël, tu n'es pas là où Akadosh Baruch Hu, il a envie d'être ton Dieu. Le Shabbat, c'est en souvenir de la création du monde. Si tu remets en cause la création du monde, alors tu remets en cause ton lien de base avec Dieu. Le Limud HaTorah, s'il n'y a pas de Torah, comment tu veux connaître Dieu ? Et les Tzitzit, c'est parce que c'est ce qui te permet d'être entouré et de te rappeler à chaque instant de toute cette fameuse Torah. C'est-à-dire, donc ces 4 mitzvot fondamentales. Tu ne les fais pas, tu perds ton lien avec l'identité.
De la mitzvah de...
Une des 4, habiter en Eretz Israël.
Ce n'est pas qu'il ne fait rien, il fait déjà...
Mais bien sûr, évidemment.
Et je pense que quelquefois, il n'en est même pas conscient.
Zénachon, c'est malheureux. Il faut lui apprendre. Barou. Ok ? Betel. Kshanu mekimim atta. Mitzvat teruma u maaseh. Gam bishah she'en lanu kol ha'yesodot ha'mamashiim she'mitzvot elu benuyot aleihem. Lo kohen be'avodato ve'lo levi bedukhano. Hine, achizayon mityatzev lefanenu ve'inenu mitmalim ruach shira romema בתעופת נשרים לעומת האורה של הימים המאושרים המחכים לך לעומתנו על אדמתנו הברוכה. דיברנו נכון דור לרזולוציון פלו פרטיקולייר דולה מצווה דו תרומות ומעשרות. דיק כאן תרופי תרומות ומעשרות אוז'ורדוי ביאן כסן סוואפה לברי. Comme on a dit, aujourd'hui, comment tu fais tomber ton maasrot, tu prends un petit bout de fruit qui est pourri, tu le mets dans un sachet, tu le mets avec beaucoup de kavana dans la poubelle. Alors, big
yuk. On attend avant de le jeter, on attend qu'il
pourrisse. Mais ça adhère, si tu le mets dans 2 sachets, tu n'as pas besoin d'attendre. C'est-à-dire, pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre? Parce que dans 2 sachets, ouais, on te dit que ce n'est pas accessible par personne. Quoi qu'il en soit, même si tu attends et qu'il pourrit, c'est pas ça l'idée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que elle a nos Kohen be'avodato ve'levi be'duchano. Donc, ils ne peuvent pas encore profiter de ça. Mais c'est d'air. Avala daïn, ça commence à nous éveiller.
Et le Lévi, il prélevait quand il avait vu ses fruits et tout ça. Il prélevait
pour quoi?
La trouma. Non, mais il prélevait pour le Lévi.
Ben non, il ne prélevait pas pour le Lévi, mais il prélevait pour le Kohen.
Nachon. Il m'a fait fini le Lévi.
Il y a Maaser, non, Maaser, Rishon, c'est pour le Lévi. Trouma, c'est pour le Kohen, Maaser Rishon pour le Lévi, et Maaser Sheni, c'est pour moi à Jérusalem. Et il y a Maaser Ani, c'est pour les pauvres. Bekitsour, donc vous comprenez bien que même aujourd'hui, quand on recommence à le faire, ça nous projette sur quelque chose, mais ce n'est pas encore le vrai.
Sur le Maaser, c'est l'ensemble des 4 qui le fait 10%.
C'est l'ensemble des ?
Des 4 Maaserot. Maaserim, je sais pas.
Ah, sur ta récolte. Sur ta récolte.
Ça fait à peu près 10% de la récolte.
Maaser, c'est 10%.
Mais les 4 Trouma, Maaser.
D'abord, tu prélèves la Trouma. Une fois que tu as prélevé la Trouma. Bon,
tu prends en pourcentage.
La Trouma, tu prélèves d'abord la Terouma. Ok.
10%.
Non, c'est pas 10%. C'est combien?
20%
la Trouma.
20% quand on prend toutes les
la Trouma en elle-même, c'est pas 20%.
Ma sœur Annie, ma sœur.
La Terouma, je te parle pas de ce que nous on fait, que nous on prend comme chez où. C'est-à-dire, nous on fait pas ce qu'il faudrait faire. La Terouma, c'est 2%. Le Maaser, c'est 10%. Mais à chaque fois de ce qui reste.
C'est ça, 2% et 10% de ce qui
reste.
Du Maaser Rishon.
Ensuite, quand tu vas devoir faire Maaser Sheni, c'est 10% de ce qui reste.
Le cours est dédié à la Elohim Nishmat Abraham ben Huguet Rabit le Fabulot, la voix chez les maths, mon père Shimon ben Rachmona.
Amen. Très bien. Ok, Betzeder. Iné. Amikdash al Mechono, Ligeon velichavod, Lechol agoyim vamamlachot. והנה אנו נוסעים ברינה, ברינת הלומות, סליחה, ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חפץ אמיתי ובטחה תאורה על הגורן והיקב המלאים בר ויין, וליבנו שמח על טוב הארץ חמדה, והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם, אלוהי ישראל, ליבם מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם, וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש אשר מלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותינו לרגל, בראותינו אותם בעומדם לשרת בתור מקדשנו, גאון וזנו, מחמד עינינו. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ואתה, הנה גאוננו המלא ברכת השם מארץ חמדה, זאת אשר הנחלנו מאבותינו. וחלקי האנשים הללו, אנשי הרוח, איתנו הם. וכאן תראו כמו ספר מצוות תרומות ומעשרות, תשפוס את עושה. או מקדש, או לוויים, או כהנים, ורוח הקודש, ותוסקי ספסי, כאן תריבו בית המקדש. ואווי, אור דו מילון, זה פא... זה נגזום תו סמפ, בטו. שמחת בית השואבה. Simchat Bet HaShoeva, d'abord c'est inconnu au bataillon pour les gens qui ne sont pas extrêmement religieux. Et Simchat Bet HaShoeva, c'est quoi? C'est tu vas dans une synagogue, il y a des mecs qui ont mis un piano, de la musique, une enceinte, et on fait des danses. Nous, Yofi, Shkoyer, c'est une soirée dansante pour religieux. C'est l'osé Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva.
C'est
une bataille d'eau. Simchat Bet HaShoeva, c'est quand tu vas puiser l'eau à Shiloah et que tu vois les Kohanim et les Anshema Asel, les Tzadikim, Rokdim, Be'esh.
Faire du jonglage.
Vas-y, c'est Simchat Bet HaShoeva. Des danses.
C'est l'eau.
Mais Nachon. Nachon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais quand tu fais Simchat Bet HaShoeva? Tu vas dans ta synagogue, tu vas chez les Chabad, tu fais un petit coup de danse et machin, t'es content. C'est l'eau.
Une fois, il y a quelqu'un qui a lancé de l'eau à mon père. Il a dit, il est fou celui-là, il me lance de l'eau. C'est quoi ça, c'est ça, là? Vous comprenez rien.
Mais je vous invite à aller faire Simchat Bet HaShoeva, Bashiloach. Vous allez à Chol HaMoed Sukkot. Vous allez au Shiloach, à David. Mais non, ça, c'est pas. C'est, tu y vas, Chofji. Et tu fais Simchat Bet HaShoeva. Et tu commences à te rattacher. Alors, ça ne sera pas le vrai encore. Parce qu'il n'y a pas encore la route qui remonte jusqu'au Bet HaMikdash, il n'y a pas le Bet HaMikdash. Mais tu commences à te rattacher à ce qui était mamash. C'est Chova. C'est Chova. C'est ça qui te dit le Rav Kook. Il prend l'exemple des mitzvot à Tlouyot Baharetz, mais c'est vrai pour toutes les mitzvot. Il faut recommencer à les vivre. À les vivre de manière authentique. Tiens, c'est Rachou.
Il faudrait apprendre.
Mais oui. מאושרים אנו ליתן להם את תרומתם בשמחה, מוציאים אנו בקרבנו רגש מרומם ועולים יחד עם התרומה על אותו הגבה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים ונפשנו רוויה ממגד שמיים. Quand on donne la תרומה aux כהנים pour de vrai au בית המקדש, en fait, ça nous relie à הקדוש ברוך הוא. Mais ça, c'est quand il y a le בית המקדש. והנה הלוויים אלה הטובים והנוגים אשר לקחו לבבנו בנועם זמירתם בקודש ובהתקדש חג, כאשר עלינו לראות בהאדרת כבוד מקדש אל בירושלים, לראות את פני האדון השם אלוהי ישראל, פניהם הצועלים והעדינים המזכירים לנו את זמירתם הקודש, ואנחנו מתעדנים בנחלי עדנים רוחניים ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם את המעשר. עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב, ומה ירעב לבבנו לראות אלה כהני השם ולוויים בעבודתם קודשם בעבודת קודשם ובשירת עוזם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. לוויים, לוויים, תשמע את משהו לוי, זה שירה. מה שאני רוצה להגיד לך, je vais vous dire un truc, alors je ne sais pas, je t'ai jamais entendu chanter, mais je vais vous dire que ça, moi, je l'ai vécu depuis ma plus tendre enfance. Même quand je n'étais pas religieuse, il y a bien un truc qui m'a toujours connecté à la Torah, c'est le chant des Lévi. On avait la chance, je te l'ai dit, on avait la chance de Metz Ira Kodesh, de Kira Kodesh Metz, chez les poilichers de la communauté, il y avait la synagogue Adas Yeshurun. Et bien qu'aujourd'hui elle soit en déperdition complète, et pas seulement parce que tout le monde a fait son alia, mais parce que les anciens meurent, quand moi j'ai grandi, il y avait le rav de la communauté qui s'appelait le rav Moshe Aryeh Levi Bamberger. Le rav Bamberger. Et le rav Bamberger, il chantait bien. Mais c'est pas seulement qu'il chantait bien. Il avait 11 enfants. Et parmi ces 11 enfants, 10 garçons. Et les 10 garçons...
Et la fille était aînée au moins
pour... Non, la fille, c'était l'avant-dernière. La fille, elle avait 6 mois de moins que moi, et son grand frère, il avait 6 mois de plus que moi, et donc on était très très proches. Et 10 enfants garçons, et tous, génétiques, hein, je ne sais pas, mais tous, ils chantent bien. Eh bien, écoutez-moi... Moi, quand j'ai grandi, il y avait les plus vieux, ils étaient déjà partis de la maison. Mais j'ai encore cette image des Chagim, de Sukkot et de Pessah, où ils venaient tous chez leurs parents. Et quand on arrivait à la synagogue, ils s'asseyaient tous à des coins de la synagogue. Et quand on arrivait aux chansons du Hallel, aux chansons de la Kedusha, machin, il y avait un son Dolby Stereo Surround. j'avais vraiment l'impression qu'il y avait les Lévim qui chantaient au Beth Amikdash. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'étais pas religieux, je ne mangeais pas kasher, je ne faisais pas Shabbat. Mais cette chanson-là m'élevait extraordinairement.
C'était la chorale
Mais ce n'était pas une chorale en mode la chorale de la grande synagogue où tu as des mecs dans le... Non, c'était des balais de fila tous, des mecs qui savaient faire la fila, machin, qui chantaient ensemble, comme on pourrait avoir une chanson au Kotel avec, avec des, ça 200 personnes qui chantent ensemble. Tu sais, des gens qui savent chanter, qui chantent ensemble. C'est Yafé. C'est Yafé, c'est mes romains. C'est donc c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment je me regarde. Et voilà. Bikitsour, les Kadmoniotes, les Kadmoniotes, c'est grave, les Shlemoutes, les Nénoumitgagim. On se languit de l'authenticité, de l'entièreté. Vagagouim, hem gagoué Elohim. Chefet tamir, malé chayim, azizim, mekorim, mimekor chaye olamim.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça.
Hein?
Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça. Sans parler qu'ils ne sont pas dans la Torah. Oui. Toutes les nouvelles générations, nous y compris,
nous,
on ne connaît pas cette grandeur-là.
Bah, non, c'est nachon, mais.
Le rab, la façon de dire à chaque fois, il y a des iné, des phrases de.
Mais c'est parce que tu n'as pas changé de lunettes.
Oui.
Mais bien sûr, c'est parce que trop souvent, on a encore les lunettes de l'exil.
Ouais, c'est pas facile.
Hein. Eh oui. Et qu'on se rend pas compte. Et qu'on se rend pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire je sais pas, t'as déjà été... Je t'invite à aller prendre un petit peu la route d'Israël, d'aller te balader dans les collines qui entourent... T'as déjà été à Tzfat?
Oui.
On va faire simple. Et il y a un moment donné, tu vois, quand tu as le vieux cimetière avec le tombeau du Hari, de Rabbi Yosef Karo, machin, il y a, avant de descendre dans le cimetière, il y a une mirpesset et tu as une vue magnifique sur Tzfat, la Galilée, machin. Il y a une verdure partout. Tu vois, Har Biria, Biria à côté, en face de Tzfat,
ouais.
C'est la plus grande forêt d'Israël. Mais tout ça, il y a 100 ans, là où il y a Har Knan. Maintenant, tout ça, il y a 100 ans, il n'y avait pas un arbre. C'est le cacaël qui a planté. Je te parle du chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, Beth Shemesh, tout ça, là, Yar Beth Shemesh. Ça n'existait pas à 100 ans. Et nous, on est venus, on a planté des arbres. Maintenant, les mecs qui ont planté les arbres.
Moi, j'arrive pas à comprendre les autres. Les arbres sont plantés sur des rochers.
Mais parce qu'on est fous.
Mais comment on
dirait. Mais il y a la bracha.
Ils vont passer des trous pour mettre des racines.
Il y a la bracha.
C'est incroyable.
Il y a la bracha.
Ouais, c'est incroyable.
Non, Kakal, il t'explique qu'ils ont développé des moyens de faire en sorte que n'importe quelle plantation d'arbres, elle marche. C'est un travail d'ingénierie incroyable.
D'accord.
Ils te montrent comment ils font. Parce qu'ils ne plantent pas les arbres comme ça, ils les plantent quand ils ont déjà réussi à développer des centaines de racines. Ce qui fait que n'importe quel sol dans lequel ils vont planter, il y a 95% de réussite.
Oui, mais les racines, il faut qu'elles
soient. Je te dis, je ne suis pas suffisamment bon là-dedans, mais ils ont réussi à créer des nouvelles façons de faire pousser les racines qui font que ça marche. Mais c'est fantastique. Maintenant, les mecs qui font ça. Ils font ça pour refleurir le pays, parce que c'est beau, parce que ça amène l'oxygène. Mais est-ce qu'ils sont aussi conscients qu'ils sont en train de faire mitzvot ensofiot? Et toi, pareil. Tu as planté ton arbre à Toubishvat. Ah, j'ai fait ma mitzvah, j'ai planté mon arbre à Toubishvat. Ou alors, au contraire, je comprends ce que ça veut dire de faire renaître la terre d'Israël. C'est quoi la sipo? T'as raison. Il y en a aussi plein parmi les religieux qui ont encore des lunettes d'exil et qui ne voient pas, quand ils sont en train de faire des petites choses, à quel point c'est quelque chose de grand et de magnifique. C'est ça notre travail, les amis. Notre travail, c'est d'avoir les bonnes lunettes. Mamash, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les problèmes. Beseder, Koltov, le Rav Kook, il n'était pas aveugle des problèmes. Mais il te dit, il se passe un truc, là, tu es en train de commencer quelque chose de nouveau. N'oublie pas. C'est-à-dire Zagoumarouk. Et maintenant, on va justement parler de ceux qui ne voulaient pas. Allez, on est Eretz Israël.
Moi, en France, je sais planter des arbres, des sillons, on appelait ça des sillons. Un truc comme ça.
Ouais.
Je faisais un trou d'un mètre cube pour planter.